Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Je salue au passage tous ceux qui découvrent cette émission au même titre que ses fidèles auditeurs. Je l'annonçais la semaine dernière, la saison musicale classique redémarre petit à petit en ce début d'année 2020, après la trêve dite des confiseurs et les vacances scolaires de Noël. De fait, très peu d'événements ont eu lieu depuis notre émission précédente, et c'est surtout à partir de ce week-end que l'on va constater une vraie reprise dans les salles de concert. C'est donc surtout la seconde partie de ce numéro qui va nous donner matière à discussion. Et pour discuter avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et je salue le retour de l'ami Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Voilà donc le duo qui va animer cette émission à mes côtés. Et on commence tout de suite avec notre habituel regard sur l'actualité de la semaine dernière et notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie, retour arrière.
Et l'actualité musicale de la semaine passée est plutôt maigre puisque nous n'avons assisté qu'à un seul concert ces derniers jours, l'un de ceux annoncés lors du numéro précédent de Mélomanie. C'était un concert de la saison bleue et il a été donné au musée des abattoirs par le jeune duo formé par le violoniste Alexandre Pascal et le pianiste Théo Fouchenret, deux des brillants musiciens de la nouvelle génération. Nous étions impatients de les découvrir, de les voir jouer ensemble. Serge Chauzy, quel programme ont-ils interprété ? Il était très intéressant ce programme.
Tout à fait, intelligemment conçu et bien organisé avec encore une fois des échanges entre la France et l'Espagne. D'ailleurs, il était sous-titré France-Espagne Fascination, ce qui était tout à fait le cas, avec deux œuvres de grands compositeurs français qui encadraient, donc qui débutaient et concluaient le concert, et qui encadraient deux œuvres espagnoles. Donc, alors il y avait Debussy et Poulenc en début et en fin de concert, et entre les deux, Falla et Mompou, compositeur un peu moins connu, mais dont on était heureux de réentendre quelques œuvres tout à fait intéressantes. Donc on a eu ces sortes d'échanges entre France et Espagne du début du XXe siècle à peu près. C'était vraiment un programme très intéressant. Et donc on a découvert deux jeunes musiciens qui jouent, alors on ne sait pas s'il y a longtemps qu'ils jouent ensemble, en tout cas c'était vraiment intéressant. Et Théo Fouchenret est déjà venu à Piano Jacobin. Je n'avais jamais vu en concert Alexandre Pascal. Alors, il faut quand même signaler que Alexandre Pascal, qui est né en 93, donc qui est jeune, il est né au sein quand même d'une famille de musiciens bien connus. Le pianiste Denis Pascal, pianiste et pédagogue très réputé. Et Marie-Paul Milon, qui est une grande violoncelliste que l'on a souvent appréciée, d'ailleurs souvent écoutée ici à Toulouse. Donc voilà, il termine actuellement ses études au Conservatoire de Paris avec le grand violoniste Olivier Charlier.
Oui, puis il a aussi un frère, lui-même excellent violoncelliste, Aurélien Pascal.
Aurélien, qui est venu il y a peu dans la série des concerts de Dialogue aux Carmélites. Et donc c'était là aussi vraiment une belle découverte.
Voilà, alors le programme en lui-même, donc on en a parlé, on peut peut-être donner les pièces qui ont été jouées, il y en a eu beaucoup.
Voilà, oui. Il y avait d'abord donc de Debussy la troisième sonate qui est pour violon et piano. Alors ça ne veut pas dire que c'est la troisième sonate pour violon et piano. C'est l'une des trois sonates, la dernière d'ailleurs, que Debussy a composée peu avant sa mort. D'ailleurs, il était déjà très malade. Et donc, c'était les fameuses sonates qu'il a voulu composer pour essayer de combattre une influence qu'il trouvait trop hégémonique de la musique germanique.
Oui.
Là, cette sonate est particulière en ce sens que elle est, comment dirais-je, un peu hantée par des accents qui sont à la fois angoissés, fantasques, et donc on croit reconnaître, ça n'est pas toujours le cas en général, mais là, on croit reconnaître effectivement des circonstances douloureuses
oui.
qui étaient celles qui entouraient la vie de Debussy.
La présence de la maladie et puis de la mort qui rôde. Hein,
ah oui, oui, tout lire, à fait. Ouais. Je crois qu'on peut dire ça. Alors les deux musiciens ont entamé cette sonate de manière presque violente, mais ça se justifie tout à fait, avec donc un violon assez rugueux de la part oui. d'Alexandre Pascal. Bon, un violon intense, avec une puissance sonore
puissance,
tout à fait
oui,
impressionnante, oui. mais il faut reconnaître que l'acoustique de l'auditorium les abattoirs.
N'est pas très valorisante, ça c'est certain.
Pas très valorisante pour le violon en particulier. Donc c'est une acoustique un peu sèche, qui convient beaucoup mieux au piano d'ailleurs qu'au violon. Et là, on a un peu regretté la sécheresse du son de ce violon. Par contre, le piano passait très bien, hein, tout à fait...
Accompagné très bien.
Accompagné magnifiquement et soutenait sans envahir le jeu du violoniste.
Ça, c'était agréable. C'était très bien, mais effectivement, ce violon manquait un peu de velouté. On en a parlé. Bon, est-ce que c'était l'acoustique de la salle? C'est possible aussi. Donc ça, c'était la pièce qui a lancé le concert.
Voilà. Et la pièce qui l'a conclue, parce que c'est aussi une sonate française. C'est la sonate de Poulenc, alors qui est une sonate tout à fait particulière, tout à fait à part dans la production de Francis Poulenc.
J'avoue que je ne l'avais jamais entendue en concert, moi.
Moi non plus. Moi non plus. C'est une sonate qu'il a dédiée à Federico Garcia Lorca. Et donc, c'était pour lui rendre hommage et essayer de lui rendre sa légitimité alors qu'il venait d'être assassiné par les franquistes en Espagne. Donc, c'est une sonate d'une intensité, d'une rudesse même, incroyable, avec une espèce de révolte.
De violence aussi. Hein.
Une violence, oui, tout à fait. Et là, la sonorité du violon convenait à cette violence qui s'exprimait tout au long de ces trois mouvements. Là, vraiment, ça a été une belle découverte pour la plupart d'entre nous, je crois, au sein de cette salle.
Oui, parce que, enfin, je peux me tromper, mais je pense que beaucoup dans la salle ne la connaissaient pas non plus.
Signalons aussi que la salle était très peu garnie, mais ça n'était pas du tout par manque d'attrait du concert. C'est tout simplement que la ligne A du métro Toulousain était en panne depuis le matin. C'était
le
qui dessert le musée des abattoirs et donc ça a dissuadé pas mal de spectateurs de venir assister au concert, ce qui est vraiment dommage. Donc,
cette sonate qui se termine par un son bref.
Ah oui,
puissant, terrible, parce qu'on sait que c'est la balle qui tue l'orca.
Exactement, c'est tout à fait impressionnant de la part du moine et voyou, dont on qualifie souvent Poulenc, et là ce n'est ni le moine ni le voyou qu'on entendait, c'était vraiment la douleur, la révolte d'un musicien vis-à-vis de cet événement tragique.
Et puis alors, entre ça, on a eu droit cette fois au compositeur espagnol, le plus connu sans doute d'entre tous, Manuel de Falla, ses fameuses...
La fameuse suite populaire espagnole. Alors elle s'appelle Suite populaire espagnole, elle est composée de 6 mouvements, mais elle est tout simplement la transcription pour violon et piano des 7 canciones populares espagnoles, donc du même, qui initialement sont composées pour la voix. Et donc, il a en fait transcrit lui-même, avec l'aide de Paul Kochanski, qui était un violoniste célèbre de l'époque, un violoniste polonais. Et donc, il a transposé 6 des 7 chansons. Il en a exclu une, la numéro 2. Il l'a transposée pour violon, avec l'aide du violoniste. Et c'est vraiment une œuvre magnifique.
Oui. Hein. Qu'on entend assez souvent ces derniers temps,
oui,
à Toulouse.
Oui, exactement, on l'a entendu il n'y a pas très longtemps.
Aussi bien piano-voix, guitare-voix, enfin un peu...
Toutes
les compositions qu'on peut imaginer, mais c'est toujours très agréable, moi j'aime beaucoup.
Donc c'était vraiment très bien. Et parmi les 6 chants qui composent cette œuvre, donc, pour ma part, j'ai tout particulièrement admiré l'espèce de douceur élégiaque que les interprètes ont infusé dans les deux, la numéro 2 et la numéro 5, c'est-à-dire Nana, qui est une berceuse, hein, et puis Asturiana. Donc, vraiment magnifiquement joué pour ces deux, alors que le final, donc, était d'une fougue tout à fait en situation.
Et puis enfin, le dernier compositeur qui était au programme de ce concert, c'était le catalan Federico Mompou.
Federico Mompou, exactement.
Magnifique compositeur.
Eh oui.
Que je trouve d'inspiration vraiment debussiste, même si, alors je ne sais plus si c'est Théo Fouchonneret ou Alexandre, non c'est Théo Fouchonneret qui a rappelé qu'on l'appelait le Forêt espagnol ou catalan d'ailleurs, je ne sais plus.
Le Forêt catalan.
Le Forêt catalan,
Oui, exactement. Il admirait Forêt d'ailleurs.
Beaucoup la musique française de l'époque.
Et c'est une musique que pour ma part je trouve très touchante par sa simplicité même.
Oui, oui.
Elle est très simple, ce n'est pas une musique très sophistiquée, mais toujours très sincère, très directe. Ça a été vraiment un ensemble d'œuvres qu'ils ont jouées. Le premier pour violon et piano. C'est une œuvre qui s'appelle Damun de tu nome les flores, et c'est pour violon et piano. Je ne m'hasarderai pas à la traduction. Et puis ensuite, pour piano solo, il y avait d'une part Paisajes, donc paysage, composé de 3 œuvres. Hein. Alors l'une, c'est la Fuente y la Campana, c'est-à-dire la source et la cloche.
Donc, il y a El Lago, le lac,
magnifique.
Ah, très,
et puis
très beau,
Carros de Galicia. Voilà, trois, un triptyque en quelque sorte, hein, très descriptif, très beau, très poétique, que le pianiste tout seul, donc...
Oui, là c'est piano solo. Hein.
A très très bien joué, avec beaucoup de recueillement, vraiment très intéressant.
Mais il a terminé par une canzone
et en fait,
danza.
Voilà, canzone y danza. Alors, Alors ça, c'est également pour piano solo. Alors là, avec, on retrouve le charme coloré de l'écriture de Mompao.
Alors Mompao, qu'on redécouvre un peu ces derniers temps, oui. Qu'on entend parfois à piano jacobin, et qui surtout est redécouvert sous l'impulsion d'Arkady Volodos, oui. Qui a une passion pour ce compositeur, qui a même enregistré un disque.
Paradoxal, pianiste
oui.
russe.
Oui, ça peut paraître, effectivement, c'est curieux. Mais il adore Mompao. Il me semble d'ailleurs qu'il avait joué du Mompao lors de son dernier récital à Toulouse, lors des grands interprètes.
Oui, exactement, oui.
Voilà.
Donc, c'est bien d'entendre de temps en temps des compositeurs un peu moins connus et célèbres que Manuel de Falla, par exemple.
Alors, la semaine dernière, je vous avais fait écouter Théo Fouchonneret seul au piano. Donc aujourd'hui, c'est Alexandre Pascal que nous allons vous faire entendre, mais pas en solo, avec un pianiste aussi. Et un pianiste qu'il connaît depuis longtemps et pour cause, puisqu'il s'agit de son père, Denis. Voici Alexandre et Denis Pascal qui interprètent le premier mouvement de la sonate en la majeure pour violon et piano de César Franck. Le premier mouvement de la sonate en la majeure pour violon et piano de César Franck, interprété par Alexandre et Denis Pascal. Alexandre Pascal qui était accompagné du pianiste Théo Fouchonneret lors du concert qu'ils ont donné pour le compte de la saison bleue la semaine dernière. Nous reparlerons dans quelques minutes du prochain rendez-vous de cette saison. Dans l'immédiat, petite pause et l'on se retrouve avec les invités de ce numéro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Seconde partie de Mélomanie avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. C'est justement avec Robert Pénavert que nous allons entamer la rubrique Agenda de l'émission, puisque le premier événement dont nous allons parler est Wozzeck, l'opéra d'Alban Berg, qui va être retransmis en direct du Met de New York ce samedi 11 janvier à 18h55 dans les cinémas Gaumont-Wilson et La Beige. C'est donc bien volontiers que je cède le micro et la parole à notre spécialiste lyrique pour qu'il nous présente cette production. Peut-être un mot d'abord sur l'œuvre elle-même d'Alban Berg, inspirée de la pièce éponyme de Georg Büchner. Elle fut créée en 1925. Est-ce que c'est pour vous un des grands opéras du XXe siècle, Robert ?
Alors, vous souhaitez que je parle de la pièce Büchner ou de...
Non,
de
l'opéra, j'ai bien dit l'opéra.
De l'opéra, oui. Non, parce qu'en fait, on peut également parler de Büchner, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un dramaturge, un écrivain qui est très, très célèbre en Allemagne, et le malheureux est mort à 23 ans.
Oui.
Il a écrit deux œuvres, dont la mort de Danton et Wozzeck. Wojciech, ça c'est donc la pièce, oui. Mais enfin, deux pièces qui ont donné lieu, d'ailleurs toutes les deux, à des opéras, dont Wojciech d'Alban Berg. Alors, deux mots sur Alban Berg, effectivement, qui est peut-être un peu moins connu que des compositeurs comme Rossini, Puccini, Massenet, Gounod, enfin, etc. En fait, la vérité, c'est qu'Alban Berg, d'abord, est mort relativement jeune, il avait à peine 50 ans. Bien sûr, il a composé pas mal de choses, mais pas beaucoup d'opéras, et puisque donc son opéra, enfin, il a composé deux opéras qui sont très célèbres, c'est Wojciech et Loulou. Et Loulou, le malheureux, n'a pas eu le temps de l'achever, puisqu'en fait, il était déjà, je pense, un peu malade lorsque est arrivé un grand malheur chez ses amis, donc en particulier la Alma Mahler, qui avait épousé en seconde noce Walter Gropius, et ils avaient eu un enfant, et Manon, prénommé Manon, et cette Manon, la pauvrette, est morte à l'âge de 19 ans, et ça a profondément bouleversé Alban Berg, qui a décidé de composer une œuvre en son hommage, bien sûr, qui est le fameux concerto à mémoire d'un ange, voilà. Et en fait, il a un peu laissé tomber la composition de Loulou, et puis résultat, il n'a pas pu la finir, puisque si j'ai bien lu tout ce que j'ai pu lire là-dessus, il est mort d'une septicémie, et il n'a pas pu être soigné, mais enfin, bon, nous étions quand même en 1935, si je ne m'abuse, donc évidemment, la médecine n'avait pas fait les progrès que l'on connaît aujourd'hui. Donc, Wojciech. Wojciech est un opéra littéraire, et donc, puisque c'est issu d'une pièce, semblerait-il, tout à fait remarquable, mais qui elle-même a plus ou moins été finie, on ne sait pas très bien, c'est une pièce extrêmement fragmentaire, et donc, en fait, aujourd'hui, même lorsqu'elle est montée en Allemagne, il faut reconnaître que c'est un peu du pain béni pour les metteurs en scène.
Oui, parce qu'ils peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent.
Ah oui, absolument, chacun fait à peu près ce qu'il veut.
Il y a une adaptation au cinéma aussi par Werner Herzog avec Klaus Kinski, qui est très bien.
Voilà.
Peut-être parce que c'est Kinski qui joue Wojciech.
Mais voilà, en plus, voilà. Et Berg s'est emparé de ces fragments et a lui-même écrit le livret, voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment une œuvre très signée Alban Berg. Alors, sans entrer dans des considérations musicologiques, mais bon, c'est une œuvre expressionniste, c'est une œuvre qui réclame un orchestre de 90 musiciens, un orchestre extrêmement virtuose, c'est une œuvre qui est séparée, divisée, si l'on peut dire, en trois actes, chaque acte ayant cinq scènes avec des ambiances extrêmement différentes, les actes également. Ces actes, encore une fois, sans entrer dans trop de détails, se font miroir avec, bon, enfin voilà. C'est une œuvre d'une complexité absolument incroyable. Et donc, nous, évidemment, cette complexité se fait sentir également dans l'orchestre, mais également chez les metteurs en scène et bien sûr chez les chanteurs. Voilà. Puisque là, nous entendons, alors dans l'orchestre, bon, on le sait encore une fois, sans faire assaut de musicologie, nous sommes là dans un tournant du dodécaphonisme, de la musique sérielle. Bon, en tout état de cause, c'est, bon, on le sait, Alban Berg appartient à ce qu'on appelle la seconde école de Vienne. Alors, s'il y a une seconde, il y a eu une première, bien évidemment. Bon, la première, nous la connaissons un peu mieux, et c'est Haydn, Mozart et Beethoven.
Oui.
Voilà.
Puis, bon. Elle précède quand même largement de plus d'un siècle. Hein, donc,
voilà. Mais la seconde, bon, la seconde, elle est au cœur du XXe siècle, si l'on peut dire. C'est Alban Berg, Webern et bien sûr Schönberg, leur aîné à tous les deux.
Oui, voilà. C'est même le fondateur, Schönberg.
Oui, et fondateur également. Webern et Alban Berg ont été les élèves, en fait, de Schönberg jusqu'à ce que, évidemment, Schönberg, à la suite des problèmes au début des années 30, puisqu'il était juif, donc, a été obligé de s'exiler. Il a fait un petit tour en France et puis vite, il est parti aux États-Unis. Voilà. Alors, que nous raconte cette œuvre? Alors, c'est une œuvre, effectivement, c'est fascinant, c'est passionnant, mais c'est une œuvre qui fait peur. Qui fait peur au public. Parce qu'en fait, c'est une œuvre qui nous interpelle très directement. Autant, franchement, il est difficile d'être interpellé dans le Barbier de Séville ou dans le Crépuscule des Dieux ou je ne sais trop quoi, mais là, là, nous sommes dans quelque chose qui nous poignarde littéralement. De voir ce pauvre homme, Wojciech, c'est un pauvre soldat qui, en fait, va devenir, et déjà, dès l'ouverture de rideau, est une victime d'une société. Alors, c'est un soldat un peu de base, donc il est victime de son capitaine, il est victime parce que pour gagner un peu d'argent, il se prête à des expériences médicales, donc il est victime d'un docteur qui, lui, ne rêve que d'être un super génie, de découvrir des choses, mais en effet, il ne découvre rien du tout. Bon, il a eu un enfant avec une femme qui s'appelle Marie, mais hors mariage. dont on va dire dans le péché. De cette union est né un petit garçon qui, au moment des faits, doit avoir 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Et puis voilà, mais Wojciech est un bonhomme qui est malade malgré tout, parce que toute la pression qu'il subit a fini par le déranger mentalement. Et donc, il est victime d'hallucinations, la lune, le brouillard sont toujours rouges, enfin, voilà, il est très mal. Et puis, un beau jour, le capitaine et le docteur lui font comprendre qu'en plus, Marie le trompe avec le tambour-major, qui évidemment, par définition, est en uniforme, c'est un beau garçon, etc. Et effectivement, je pense que Marie le trompe avec le tambour-major. Et là, Wojciech ne peut pas supporter ça, et vers la fin, au troisième acte, il amène Marie en balade, si l'on peut dire, puis finalement il la tue. Voilà. Il a peur qu'on découvre que c'est lui qui l'a tué, donc il retourne sur le lieu du crime, il retrouve le poignard, il le jette... Il l'avait jeté auparavant. Et donc il essaie de récupérer ce poignard qui n'est pas assez dans l'étang, il s'enfonce dans l'étang, il se noie. Voilà. Pire que ça, c'est difficile. Voilà. Et en plus, il y a quelque chose d'horrible dans cette histoire. Je vous le dis parce que le final est confié aux enfants. Dans cette petite ville de garnison, il y a des enfants, bien évidemment. Et donc, ils sont en train de jouer à la fin dans la rue, parce qu'il n'y avait pas les playgrounds à cette époque-là. Et ils finissent par hurler aux oreilles du petit « Ta mère est morte ». Mais c'est horrible, ça. Il n'y a que des enfants qui sont capables de faire ça. Et le petit continue de jouer malgré tout, parce qu'on ne sait pas s'il a compris ou... Voilà, on ne le sait pas. Et l'opéra s'achève là-dessus et vous laisse complètement tétanisé. Mais complètement tétanisé. Mais c'est fascinant. En définitive, c'est fascinant. Il faut oser aller le voir. Et croyez-moi qu'une fois que vous l'aurez vu, vous direz oh, « c'est génial !» Parce que c'est un opéra génial. Alors, le Métropolitain, évidemment, a mis...
Les petits plats dans les grands.
Les petits plats dans les grands, oui, effectivement. Et donc, c'est une nouvelle production. Alors, c'est une nouvelle production pour le Met. Hein. Ce n'est pas une nouvelle production exactement. C'est une production qui a quelques années, mais qui est somptueuse, mais vraiment somptueuse. Alors, d'abord, il y a une direction, évidemment, d'acteurs qui est assurée par un metteur en scène qui est très connu,
c'est William
Cambridge, voilà. Mais il faut le voir, elle est très visuelle et il y a beaucoup de projections. Alors, ça va vous paraître bizarre, mais de dessins animés et de projections de films, mais de films avec des personnages réels. Il y a un peu de tout ça. J'ai vu cette production. Alors, en fait, on ne sait pas trop au début où regarder, mais fort heureusement, il y a des systèmes d'éclairage qui focalisent sur les,
sur les
personnages.
Sur ce qu'il
parce
faut
que
regarder.
Elle est extrêmement géographique. Elle envahit complètement la scène métropolitaine. Alors, évidemment... Pour interpréter cette partition, alors bien sûr que l'Orchestre du Métropolitain ne recule pas devant ce genre de choses, bien évidemment, mais l'a confié à la direction, à Yannick Nézet-Seguin.
Qui est le directeur musical aujourd'hui, l'établissement.
De l'établissement, voilà. Et donc, moi, je pense que ça va être extrêmement intéressant. Vous, tous les deux, vous le connaissez mieux que moi, parce que vous l'avez déjà entendu
à Toulouse à
l'Ogrève
oui.
plusieurs fois.
Il est venu assez souvent.
Oui, oui.
Voilà. Exactement. Ah, c'est un chef très imaginatif, très coloré, très, très sympathique en plus.
Oui, donc, en plus.
Et puis très tout terrain, parce qu'il dirige tout. Hein.
Absolument. Il n'a pas de répertoire favori, je crois.
Alors, en plus, quand on est directeur musical du Metropolitan Opera...
Oui.
On ne peut pas se cantonner à musique baroque, c'est pas possible. C'est voilà. Donc moi je suis extrêmement curieux de voir comment il va aborder une telle partition. Et puis évidemment le personnage de Wojciech a été confié à Peter Mattei,
qui est
baryton, pour lequel c'est une prise de rôle. Une prise de rôle évidemment majeure, parce qu'en fait Peter Mattei est plutôt connu pour le répertoire mozartien. En fait ce qu'il faut... Pour chanter Wojciech, c'est pas un chanteur, c'est un tragédien lyrique.
Oui, oui, oui.
C'est évident. Vous faites que chanter Wojciech, bon, ça n'existe pas d'abord, ça. C'est impossible de faire que chanter Wojciech. Alors ensuite, il y a une distribution dans laquelle, évidemment, il y a Elsa van der Helven qui va chanter Marie, mais qui, elle aussi, est plutôt habituée à des rôles de pur bel canto. Donc ça va être extrêmement intéressant de voir ce qu'elle fait là-dedans. Et puis ensuite, il y a toute une distribution dans laquelle le tambour-major... est écrit pour un ténor wagnérien. Et c'est Christopher Ventris qui, lui, ne fait que chanter du Wagner sur la scène aujourd'hui, mis à part donc le rôle du tambour-major, qui est un rôle très court, en fait. C'est très, très court, mais bon...
Mais héroïque, hein, avec une tessiture
très
terrible.
Héroïque, hein. Très, très héroïque. Mais les tessitures, pour tout le monde, dépassent les deux octaves. Mais largement. Bon, sans entrer évidemment dans certaines considérations. Vous savez que c'est dans ces opéras que l'on a commencé à entendre parler de Sprech Gesang. Alors, Alban Berg ne voulait pas en entendre parler de ça. Il préférait parler de Sprech Team. Enfin, il vous préférait parler d'autre chose. Mais bon, c'est-à-dire qu'il y a du parler chanté, il y a du chanté tout court, il y a du parler tout court. Voilà. Mais c'est d'une difficulté parce qu'encore une fois, tous les rôles doivent être incarnés.
Ben oui, parce que ce sont des personnages très complexes.
Voilà.
Alors, si on veut leur donner cher, si on peut dire.
Et très fort, très intense.
Oui, bien sûr. Tout ce qui se passe sur scène, toute l'histoire est très forte. Voilà. Très sombre.
Parce qu'en fait, ils sont tous des archétypes.
Oui.
Des archétypes de ce qu'il y a de plus horrible dans notre société, même notre société actuelle. Et voilà. Donc, écoutez, franchement, amis auditeurs, allez-y, vraiment, allez-y, vous le regretterez pas.
Moi,
franchement, vous le regretterez.
J'ai toujours trouvé que le personnage de la pièce, donc de Georg Büchner, Wojciech, avait une parenté, une certaine parenté, ou c'est plutôt l'étranger de Camus qui a une parenté avec ce, ouais, avec ce Wojciech. Ouais.
Voilà. Et puis, y a une chose intéressante, qu'il y ait des chanteurs mozartiens qui chantent ces rôles-là, c'est pas très étonnant, puisque la plupart des scènes ont un sous-titre, en fait, qui se réfère à la période baroque. Il y a une gavotte, il y a une.
Il y a Passacaille, il y a des.
Passacaille, etc. Voilà, donc, finalement, il y a la forme musicale, bien que le langage soit très moderne, forme musicale reste très classique.
Oui, c'est pour ça que c'est une œuvre qui étonne à chaque note. Vraiment, mais vraiment, à chaque note. Alors, je ne fais pas de jeu de mots sur le dodécaphonisme, ce n'est pas ça, mais elle est passionnante. Comme je disais tout à l'heure, elle est fascinante, mais également passionnante. Il faut bien l'écouter et il y a une surprise, je le dis et je le répète,
à chaque
derrière,
instant.
À chaque instant, à chaque note. Alors, et c'est cet opéra, donc, inaugure deux opéras américains, puisqu'après, il y aura, dans quelques semaines après, il y aura Porgy and Bess de Gershwin. Mais nous y reviendrons.
Bien entendu. Vous reviendrez. On va écouter un extrait de cette production avec les deux chanteurs qui tiennent les rôles principaux. Donc Peter Mattei, le Suédois, dans le rôle de Wojciech, et Elsa van der Ever, la Sud-Africaine, dans celui de Marie.
Hast du für süße Lippen hast, Marie? Aber ich darf nicht.
Was zitterst?
Die Nacht gefällt.
Für kalt ist, ihn friert nicht mehr, dich hier bei Morgentau nicht friert.
Un extrait d'une répétition de la production de Wojciech au Met avec Peter Mattei dans le rôle de Wojciech et Elsa van der Ever dans celui de Marie, à voir en direct ce samedi 11 janvier à 18h55 dans les cinémas Gaumont, Wilson et La Beige. Autre concert la semaine prochaine, celui que présente encore la Saison Bleue à Saint-Pierre-des-Cuisines, lundi 13 janvier à 20h, avec les deux pianos de Philippe Cassard et Cédric Pessia. Une seule œuvre au programme, et quelle œuvre? Mais avant d'en parler, je voudrais qu'on dise un mot de Cédric Pessia, parce qu'on ne présente plus Philippe Cassard, vieil habitué des saisons d'Alain Lacroix. Il se trouve que ce n'est pas la première fois que Cédric Pessia se produit avec Philippe Cassard, Serge Chosy.
Non, en effet, il a même participé à des émissions sur France Musique et Philippe Cassard le soutient à fond, hein, vraiment. C'est un pianiste avec lequel il a des relations très fortes, qu'il défend beaucoup. Et à juste titre, c'est un excellent pianiste, hein, Cédric Pessien. Et donc, on est très content de le voir dans cette œuvre tout à fait exceptionnelle.
Alors oui, l'œuvre en question, bon, je ne l'ai pas citée, mais il y en a une seule au programme,
oui.
Ce qui n'est déjà pas commun. Programme de piano, il y a une seule œuvre. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, c'est la 9e symphonie de Beethoven, transcrite pour deux pianos par un certain Franz Liszt.
Eh oui, ben Franz Liszt a transcrit pour piano toutes les symphonies de Beethoven, hein, donc on peut toutes les entendre au piano. Mais celle-là est un peu particulière, puisque là il faut vraiment, vraiment deux pianos pour donner toute l'envergure de l'œuvre, hein, et jusqu'à la fin, jusqu'à l'eau de la joie. Donc c'est intéressant d'entendre cette œuvre en concert. Hein.
A priori, ça paraît redoutable quand même, hein, à jouer.
Tout à fait, oui, oui.
Et je me posais la question, moi je ne l'ai jamais entendu en concert, j'ai l'impression que c'est très rarement programmé. Je ne sais pas si à Toulouse vous avez déjà eu l'occasion de, si ce n'est au moins, ou peut-être de voir ça sur une affiche, moi ça ne me dit rien.
Je n'ai pas souvenir d'une telle exécution à Toulouse. Hein.
Bon. Une œuvre qu'on entend rarement donc, ce qui fait que je vais vous laisser la surprise de l'entendre en live le 13 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines. Nous allons plutôt découvrir Cédric Pessien dans ses œuvres. Le voici justement dans du Beethoven, la sonate numéro 30, opus 109. Extrait de la sonate numéro 30 opus 109 de Beethoven, joué par Cédric Pessien, que vous retrouverez donc avec Philippe Cassard, lundi 13 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, pour une interprétation de la symphonie numéro 9 du même Beethoven, dans la transcription pour deux pianos réalisée par Franz Liszt. Le lendemain, et au même endroit, toujours à 20h, il y a un concert de la saison des grands interprètes qui réunit Christian-Pierre Lamarca et le Toulousain Thibaut Garcia pour un duo violoncelle-guitare inédit entre ces deux-là à ma connaissance. Pas plus que Philippe Cassard, on ne va pas présenter non plus Thibaut Garcia, que nous avons reçu à plusieurs reprises dans cette émission. En revanche, peut-être qu'il faut qu'on le fasse pour Christian-Pierre Lamarca, excellent violoncelliste qui a joué avec les plus grands et qui est très demandé un peu partout, Serge.
Oui, oui, en effet, c'est un très grand soliste. Hein. Il est déjà venu à Toulouse et donc, bon, c'est vraiment très intéressant de le voir associé à notre cher Thibaut Garcia, que l'on connaît bien à Toulouse. Pour une fois qu'un musicien est prophète en son pays, on peut s'en réjouir.
Oui, on en a quelques-uns quand même, là, depuis quelques temps, là, qui font carrière ailleurs et à Toulouse.
Oui, c'est vrai.
Christian-Pierre Lamarca, qui a entre autres reçu l'enseignement de Mislav Rostropovitch et de quelques autres grands violoncelles.
Gary Hoffman, qui a été également, qui l'a conseillé. Donc, de grands artistes ont été un peu comme les fées autour du berceau. C'est très bien.
Alors tout de même, Thibaut Garcia, il y a une chose, c'est que depuis quelques temps, moi j'ai remarqué qu'il multiplie les expériences en duo. Mais pas toujours avec les mêmes musiciens ni les mêmes instruments. On l'a vu avec le flûtiste Boris Grolier.
Absolument, très beau concert.
Il a fait un CD, la Bach Improvisation, où Elsa Dreizig, la soprano, est en duo, donc il l'accompagne à la guitare. Il a participé au CD de Philippe Jarouski.
Mais c'est très bien. Bon,
lui aussi est tout terrain.
Ah ouais, c'est un musicien, il est plus que guitariste, il est musicien, vraiment.
Alors, quel programme vont-ils jouer? Parce que je crois qu'il y a eu un changement par rapport à ce qui était annoncé sur le site des grands interprètes. Il semblerait que finalement, ça va être très hispanisant, très latin, ça on peut voir un petit peu s'en douter avec de la guitare. Il y a du Granados, il y a du, je crois qu'il y a les Goyescas.
Je crois qu'il y a l'intermède des Goyescas.
Il y a Albéniz Astorias.
Évidemment. Bon.
Il y a du Piazzolla, il y a du Mangoré.
Voilà, le paraguayen, compositeur paraguayen, que l'on n'entend pas très souvent, et donc c'est intéressant.
C'est vraiment
Cathédrale,
pour les frères de guitare.
C'est l'œuvre, son œuvre la plus célèbre, en quelque sorte.
Que Thibaut Garcia aime beaucoup jouer. Alors du coup, je ne sais pas s'il va la jouer en duo avec Christian-Pierre Lamarca, c'est pas évident,
je ne sais pas.
Et puis il y a du Villa-Lobos, il y a quand même les Baquianas brasileiras.
Ah oui, il y a la fameuse.
C'est le seul qui parle pas espagnol dans le temps. Il y a un portugais qui parle portugais.
Oui, qui est brésilien donc.
Oui,
donc il y a même deux œuvres de Villa-Lobos, si je crois me souvenir. Oui, effectivement. Donc,
voilà. Alors, on vous annonce le concert, mais il faut que vous sachiez qu'il est déjà annoncé complet.
Oui, mais on peut toujours tenter.
Oui, il y a des désistements, il y a des gens qui finalement ne viennent pas. Donc, c'est la période, vous savez, des virus, j'en sais quelque chose. essayez, tentez quand même votre chance, on ne sait jamais. Donc Thibaut Garcia et Christian-Pierre Lamarca interpréteront, entre autres, je viens d'en parler, les fameuses Baquianas Brasileiras d'Hector Villa-Lobos.
L'une des Baquianas Brasileiras.
Je ne sais pas laquelle d'ailleurs. Il se trouve que Thibaut Garcia a fait paraître il y a 2-3 ans ce fameux CD intitulé Bach Improvisation, où il jouait des extraits des Baquianas Brasileiras. Je vous propose qu'on en écoute un extrait.
Thank you.
Extrait du CD Bach Improvisation et des Bachianas Brasileiras d'Hector Villa-Lobos joué par Thibaut Garcia, qui le rejouera, mais en duo, avec Christian-Pierre Lamarca lors du concert qu'il donne mardi 14 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines pour le compte de la saison des grands interprètes. Et là, on a vraiment le programme complet. Vous pouvez donc, Serge Chosy, oui, nous le détailler.
Je peux le détailler. Et il y a effectivement tout d'abord de Granados Andaluza et puis l'intermezzo donc des Goyescas. Ensuite d'Albéniz Asturias, mais là c'est pour guitare seule. Ensuite Barrios Mangoré, donc le compositeur paraguayen, il y a la cathédrale donc, qui est là aussi pour guitare seule. De Villa-Lobos, il y a droit à deux œuvres, le prélude numéro 3 pour guitare seule et la Bachiana Brasileira numéro 5, donc pour violoncelle et guitare, cette fois. De Piazzolla, Café 1930, c'est donc extrait de l'histoire du tango. Là, ça sera pour violoncelle et guitare également. Et puis de Casado, la suite pour violoncelle seule.
Ah oui.
Alors, très belle œuvre d'ailleurs.
Compositeur et espagnol, Casado.
Voilà. Et puis, le concert s'achèvera avec, de Manuel de Falla, devinez, cette chanson populaire.
Eh bien, décidément.
Décidément.
Ils se battent tous pour les jouer. C'est cette chanson populaire de Manuel de Falla. Voilà. Puis donc, je le redis, ce concert a été déjà annoncé complet, mais après tout, tentez votre chance. Enfin, dernier concert que nous voulions vous annoncer, les quatre que donne l'Orchestre de Chambre de Toulouse, avec le violoncelliste Damien Ventula, les 14 et 15 janvier à l'escale de Tournefeuille, et les 16 et 17 à Saint-Pierre-des-Cuisines, tous commençant à 20h30. Nous allons d'abord présenter le soliste qui va accompagner l'Orchestre de Chambre. Nous parlions en début d'émission d'Alexandre Pascal, fils de Denis Pascal. Eh bien, Damien Ventula est lui aussi ce qu'on appelle un enfant de la balle, Serge Chosy.
Oui, et puis un Toulousain d'origine, puisqu'il est né dans une famille de musiciens, dont Michel Ventula, que l'on connaît bien, puisqu'il a très longtemps été percussionniste de l'Orchestre du Capitole. Il enseigne la percussion aussi. Et donc, Damien a travaillé le violoncelle dès son plus jeune âge, avec un grand maître, Louis Claret, à Toulouse même, et puis d'autres grands professeurs. Et actuellement, il enseigne au Conservatoire de Versailles. Et donc, il a également eu une classe de 2013 à 2017 à la prestigieuse Hochschule Hans Eisler de Berlin. Tout de même, voilà, une belle trajectoire pour ce jeune musicien, donc qui est un soliste tout à fait confirmé, qui joue avec des orchestres, et qui a été d'ailleurs choisi par Charles Chêne, le grand compositeur de chez nous, et puisqu'il Charles Chêne lui a dédié un concerto pour violoncelle et orchestre. Ouais. Donc, c'est très intéressant de le retrouver enfin chez lui, à Toulouse, dans un programme beaucoup plus classique que tout ça.
Ouais, Damien Ventula qui se produit aussi assez souvent avec un autre Toulousain, le pianiste et compositeur Thierry Huillet, qui le tient en très très haute estime. Donc voilà, ça sera l'occasion de voir Damien Ventula à Toulouse, en fait, dans son pays, comme vous dites. Concernant le programme des concerts donc de la semaine prochaine, ce programme est bâti autour des figures de Haydn et Mozart, deux compositeurs prolifiques liés par une profonde affection, on le sait, une grande admiration réciproque, quoique séparée d'une génération tout de même. On peut penser qu'ils ont été réunis dans ce programme pour montrer, je suppose, les influences mutuelles, mais aussi les différences entre les deux. On peut peut-être parler déjà des relations qu'ils avaient.
Ah oui, des relations tout à fait de fils à père, oui. Hein, puisque Mozart appelait Haydn
Papa Haydn.
Papa Haydn. Donc, vraiment, ça a été une grande relation filiale entre les deux. Mais il n'y a pas que du Haydn et du Mozart à ce concert, puisque également, il y aura un concerto en do mineur, donc pour violoncelle et cordes, de Johann Christian Bach, l'un des fils du grand cantor.
On appelle Jean Chrétien en France.
Jean Chrétien, on l'appelle, oui, on traduit en général. Et puis également une symphonie dite pastorale de Johann Stamitz, qui est un peu antérieur à Haydn, hein, c'est la génération avant également.
Il est mort en 1757.
C'est ça, voilà. Et il est né en 1717, puisque Haydn, lui, est né en 1732. Donc, il est encore plus ancien.
Alors, Stamitz, qui était tchèque, enfin, germano-tchèque.
Voilà, hein, c'est ça. Et puis, tout de même, Damien Ventula sera le soliste également du concerto en ré majeur de Haydn, un concerto qu'on entend assez souvent d'ailleurs. Très beau concerto, alors que de Mozart, ben Gilles Colliard dirigera la symphonie numéro 29, la symphonie en la majeure. Donc voilà, quatre œuvres tout à fait classiques.
Je disais que les deux, Haydn et Mozart, avaient été très prolifiques, notamment en symphonie.
Ah
alors
bah.
Haydn, il bat tout le monde à plat de couture parce qu'il en a composé 104.
104.
D'ailleurs, je ne sais
peut-être
pas.
Peut-être plus d'autres qui n'ont pas été édités.
Peut-être d'autres qui n'ont pas été retrouvés ou qu'on estime ne pas valoir la peine de l'être. Mais d'ailleurs, les 104 symphonies, il y en a certaines qui ne doivent être jamais jouées, je pense.
Oui, mais on a entendu, je crois que
l'orchestre de chambre a joué les quelques toutes premières symphonies de Haydn il y a quelques années.
Mozart s'est arrêté à 41, mais bon, il n'avait que 35 ans.
Oui, et puis il y en a d'autres. Avant la première, il a composé des symphonies qui n'ont pas été éditées ou qui n'ont pas de numéro. Mais donc, il en a composé, je crois, au moins 45, hein, mais bon.
La petite attraction, je trouve tout de même, de ce programme, c'est Jean-Chrétien Bach, un des quatre fils qui sont devenus compositeurs.
Eh oui.
Pas le plus connu.
Non. Pas aussi connu que Carl-Philippe Emmanuel, évidemment, hein, donc, qui est peut-être le plus célèbre des fils. Mais enfin, quand même, il y a quatre fils qui ont été compositeurs célèbres
En leur temps.
En leur temps, hein, et dont certains le sont toujours. Hein, Carl-Philippe Emmanuel, on joue toujours ses œuvres avec beaucoup d'assiduité. On peut le retrouver dans les concerts très souvent.
Voilà, donc Haydn, vous disiez que Mozart appelait Haydn Papa Haydn, et Haydn, lui, avait coutume de dire que Mozart était le plus grand.
Oui, il a même, il s'est adressé à son père en lui disant, toute sincérité, votre fils est le plus grand compositeur vivant et qu'il ait jamais eu. Alors, venant de la part de Haydn, c'était extraordinaire tout de même.
Une question que je me posais, c'est Stamitz, je crois qu'il n'y a que l'orchestre de chambre de Toulouse qu'il joue dans notre région. Est-ce que c'était un compositeur, lui, vraiment important à son époque?
Ah oui, il a été célèbre à son époque, mais bon... Bon, il est mort à 40 ans à peu près, ce qui à l'époque était presque normal, je vais dire. Mais bon, oui, il était quand même assez célèbre hein, à son époque.
Bien, alors, comme on a rarement l'occasion d'entendre la musique de Johann Christian Bach, Jean-Chrétien Bach, comme il est au programme de ce concert, nous allons profiter pour l'écouter. On va écouter un extrait de son concerto en do mineur pour violoncelle. C'est le tout début de cette pièce. Le concerto en do mineur pour violoncelle de Johann Christian Bach, une des œuvres au programme du concert que donne l'orchestre de chambre de Toulouse, et le violoncelliste Damien Ventula, les 14 et 15 janvier à l'Escale de Tournefeuille, et les 16 et 17 à Saint-Pierre des Cuisines. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro que je vais conclure en remerciant ceux qui y ont participé, mes amis Serge Chauzy et Robert Pénavert, chroniqueurs réguliers de Mélomanie auxquels cette émission doit tant. Je rappelle les événements musicaux programmés ces prochains jours. Les amateurs de ballet noteront que Coppelia, de Léo Delibes, est retransmis en direct du Royal Opera House de Covent Garden à Londres par le cinéma L'ABC de Toulouse ce samedi 11 janvier à 15h. Vous pouvez vous informer, réserver et acheter vos places en ligne sur le site du cinéma www.abc-toulouse.fr. Voicek, l'opéra d'Alban Berg, est lui aussi retransmis en direct du Met de New York ce samedi 11 janvier, mais à 18h55, dans les cinémas Gaumont-Wilson et Gaumont-Labège. Vous pouvez là aussi réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.patelive.com. Je rappelle le concert que je vous avais annoncé déjà la semaine dernière, celui que donnent les Clés de Saint-Pierre à 11h ce dimanche 12 janvier à l'escale de Tournefeuille. Ils vont jouer entre autres Pierre et le Loup et vous pouvez vous renseigner et réserver sur le site www.mairie-tournefeuille.fr. Pour le concert de Philippe Cassard et Cédric Pessia à Saint-Pierre-des-Cuisines lundi 13 janvier à 20h, où ils vont jouer dans le cadre de la saison bleue la symphonie numéro 9 de Beethoven, transcrite par Franz Liszt pour deux pianos. Informations et réservations sur le site www.lasaisonbleue.toulouse.fr. Toujours à Saint-Pierre-des-Cuisines, le 14 janvier à 20h. Mais pour le compte de la saison des grands interprètes, cette fois-ci, je rappelle aussi le concert de Thibaut Garcia et Christian-Pierre Lamarca. Il est annoncé complet, mais vous pouvez éventuellement consulter le site www.grandsinterprètes.com pour vous renseigner. Et enfin, un dernier rappel concernant les concerts de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, avec le violoncelliste Damien Ventula. Les 14 et 15 janvier à l'escale de Tournefeuille et les 16 et 17 à Saint-Pierre-des-Cuisines, ces 4 concerts commencent à 20h30 et vous pouvez vous renseigner, réserver vos places et retrouver le reste de la saison de l'Orchestre de Chambre sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir piloté la régie technique de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence, bien sûr. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci pour votre fidélité et très bonne semaine musicale à tous.